Bonjour Monseigneur Mika.
Bonjour.
Aujourd'hui avec vous, nous allons parler de la création. Le mois de septembre se termine, nous sommes aux portes du mois d'octobre et depuis le début du mois de septembre, nous vivons un temps pour la création, un temps pour la création qui va s'achever le 4 octobre en la fête de Saint-François d'Assise. Alors cette émission hebdomadaire cette semaine est l'occasion de s'interroger avec vous sur notre manière de contempler et d'habiter la création. D'abord, est-ce qu'il y a une manière chrétienne de contempler la création?
Elle est exprimée dans bien des psaumes, dans le cantique de la création, de la liturgie des heures que prient bien des personnes et tous les consacrés dans l'Église catholique, c'est-à-dire de regarder la création et de louer le Créateur. Voilà. La manière chrétienne de regarder la création, c'est de l'admirer, de s'en réjouir, et qu'elle nous conduise dans une belle action de grâce adressée au Créateur. Et ensuite, nous rappeler que le premier livre de la Bible pose qu'au terme de l'acte créateur, Dieu confie son œuvre à l'homme et lui demande d'en être un bon gérant. Et donc la manière chrétienne de regarder la création, c'est aussi de la regarder non pas comme une source de ressources, comme un lieu de ressources exploitables pour satisfaire ses désirs, voire sa cupidité, mais comme un donné qui est confié à sa responsabilité pour qu'il lui fasse porter du fruit, mais tout cela étant mis au service de la vie des autres, de la vie tout court et de la croissance de la vie.
Voilà. Oui, ça veut dire qu'il ne s'agit pas non seulement de la contempler, de l'habiter, mais d'y participer, de
oui, et non pas seulement de la préserver, de la conserver en l'état, comme celui qui, dans l'Évangile, a reçu un talent qu'il enfouit et qui le restitue en l'état au jour où le maître revient de son voyage, mais de lui faire porter du fruit, de faire fructifier, de la faire croître et embellir et développer. Voilà. C'est aussi ça, quoi. Donc, on est légitimé, si on peut dire, par la révélation biblique pour travailler la création, pas seulement pour la conserver et la préserver, mais aussi pour la travailler, pour une forme... l'exploiter, mais au sens positif du terme, pas au sens industriel et économique du terme seulement. Mais voilà, une forêt, pour qu'elle vive, et ben il faut abattre des arbres pour que d'autres puissent se déployer, etc. etc. Donc voilà, la gérer. Mais la gérer aussi, non seulement en pensant aux arbres et aux animaux, mais en pensant, et là c'est le pape François qui insiste beaucoup sur ce regard dans Laudato Si, l'encyclique qu'il a écrite sur le sujet de l'écologie globale, intégrale, en incluant l'homme, lui aussi, dans la création. Et donc d'avoir une vision qui englobe toute la vie, tout le vivant, et l'homme fait partie de ce vivant, mais la nature, le créé, font partie aussi de ce vivant. Et tout ce monde-là, si j'ose dire, doit croître et embellir en harmonie vers une certaine unité qui rend gloire au Créateur, mais qui aussi progressivement prépare le royaume de Dieu.
Donc cette vision chrétienne de la création, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a un Créateur qui nous a offert cette création et que nous avons à y prendre part et à y prendre part correctement, avec bon sens.
J'aime beaucoup un article du livre des exercices spirituels Saint Ignace de Loyola, le numéro 23, qui s'appelle « Principes et fondements », où Saint Ignace commence par poser que l'homme a été créé pour louer son Créateur. Bon. Et ensuite, il continue pour dire que tout ce qui a été créé, donc toute la création, a été mis à la disposition de l'homme afin de l'aider à poursuivre ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire louer son Créateur. De telle sorte, dit-il, qu'il doit en user ou s'en abstenir à proportion de ce que cela favorise ou entrave la poursuite de sa fin, c'est-à-dire de ce pourquoi il a été créé, à savoir louer son Créateur. Et donc, il y a une gérance de l'homme à l'égard du créé qui est mis à sa disposition pour l'aider à faire ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire louer son Créateur. Et donc, tout doit être ordonné à cette finalité. Tout doit converger vers Dieu. Au final, tout doit converger vers Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, à propos du Christ. Et tu nous as fait pour toi, Seigneur. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, etc. Tout se tient, vous voyez. C'est vraiment un grand mot du pape François. Tout se tient.
Alors justement, dans son encyclique Laudato Si, le pape François parle beaucoup de la conversion intégrale, la conversion écologique à l'écologie intégrale. Mais nous, chrétiens, nous sommes appelés, semble-t-il, quand on lit cette encyclique Laudato Si, à d'abord une conversion intérieure. Est-ce que c'est possible d'envisager une conversion écologique s'il n'y a pas d'abord une conversion intérieure ?
Nous serons contraints de le faire de gré ou de force, conduits à le faire de gré ou de force, conduits à le choisir, c'est ce à quoi nous invite le Saint-Père, choisir cette conversion intérieure, choisir une vie plus sobre, choisir une vie plus juste, etc. Et faute de faire ce choix de manière délibérée et volontaire, les réalités de la nature, du monde, de la vie, de l'histoire, nous y contraindront de toute façon, donc de gré ou de force. Et le pape nous alerte pour que ce soit plutôt de gré, et que ce soit précisément dans une vision chrétienne, et donc un choix hérité du regard que donne la foi sur le monde créé, homme compris là-dedans, voilà. Donc, en effet, on ne peut pas envisager une vie équilibrée, juste à l'égard du créé, sans conversion intérieure. Tout ne fait qu'un. Mmh. Alors, cette conversion intérieure, l'écologie intégrale, eh bien, elle englobe la manière de regarder le monde créé, les ressources de la nature, que la nature met à la disposition de l'homme, mais elle engage aussi le regard que l'homme pose sur l'humanité tout entière, sur les sociétés, sur la manière d'organiser notre vie commune, sur la manière d'organiser notre économie commune, etc., etc. Tout se tient. Et donc, de même qu'on ne peut pas exploiter les ressources de la nature à l'infini parce qu'elles ne sont pas infinies, de la même façon, on ne peut pas non plus vivre de manière insouciante et égoïste comme des enfants gâtés, une toute petite portion d'humanité, dans l'indifférence absolue du sort de l'autre portion infiniment plus importante d'humanité, dans une injustice absolument criante, enfin, voilà, qui hurle, qui devrait hurler à nos tympans, enfin, voilà, et à nos cœurs. Bon. Ben voilà, le pape tire la sonnette d'alarme pour dire que de même qu'on ne peut pas surexploiter la nature, de même on ne peut pas non plus surexploiter l'humanité et créer une injustice infinie, etc. Tout cela aura nécessairement une fin. Soit parce qu'on y mettra fin nous-mêmes en prenant conscience que nous devons être en relation de justice avec tout et avec tous, soit parce que, de toute façon, les équilibres se referont naturellement.
Mmh. Donc là, on comprend bien l'engagement des chrétiens, que les chrétiens doivent avoir dans ce souci de la création, dans ce souci d'habiter et de participer à la création. Dans notre diocèse, Monseigneur Mika, il y a un fort engagement des chrétiens dans le monde rural. Alors, on pourrait parler du MRJC, de la mission rurale. On peut aussi évoquer la délégation qui s'est rendue au rendez-vous Terre d'Espérance, auquel vous avez participé juste après votre nomination. C'était au mois d'avril dernier. Il y a de nombreux exemples dans notre diocèse. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ben d'abord, j'ai été très très impressionné. En effet, tout de suite après ma nomination le 30 mars, j'ai reçu 2-3 jours après une invitation à participer à ce rassemblement national appelé Terre d'Espérance, à l'initiative de tous les acteurs du monde rural dans les diocèses marqués par cette réalité rurale. Et de fait, on était une vingtaine d'évêques présents à ce rassemblement national qui regroupait 3500 personnes à Châteauneuf-de-Galors. Une initiative, voilà, c'était une première. Étaient présents tout ce qui, dans l'Église catholique, de près ou de loin, s'intéresse à la vie du monde rural, à l'annonce de l'Évangile dans ce monde-là. Différents acteurs économiques, différents acteurs pastoraux, les mouvements d'action catholique, des groupes de prière, toutes sortes d'initiatives et de réalités. Alors, j'ai reçu à cette occasion, de la part des délégués venus des Hautes-Pyrénées, moi je venais encore de Paris, je n'avais pas encore déménagé à Tarbes, j'ai reçu tout un catalogue de tous qui avait fait suite à une journée organisée par la mission rurale du diocèse de Tarbes et Lourdes et qui avait recensé tout ce qui existe dans le diocèse, toutes les initiatives qui existent ici. Et donc, c'était pour moi une découverte, et j'étais admiratif, extrêmement impressionné, que ça soit un jardin partagé, que ça soit, enfin, toutes sortes de choses, c'était très impressionnant. Et en plus de l'impression fournie par le catalogue, le partage pendant les 3 jours qu'a duré ce rassemblement avec la petite délégation d'une petite dizaine de personnes venues des Hautes-Pyrénées, venues du diocèse de Tarbes et Lourdes, m'a montré des gens très engagés, chacun dans des réalités différentes, de manière différente, mais très engagé dans ce diocèse, autour de ces réalités du monde rural aujourd'hui, alors comme je le disais, à la fois économique et à la fois pastoral au sens chrétien du terme.
Et là précisément, ils ont une manière d'habiter le monde rural en tant que chrétien, de par leur métier parfois.
De même que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, de même j'ai trouvé des gens qui faisaient du laudato si sans le savoir ou sans l'identifier clairement. Et il me semble que cette encyclique du pape dont on parlait à l'instant croise une actualité de fait, un déjà-là de sensibilité chez quantité de chrétiens. Et pour moi, ça, c'est une source de grande espérance. J'y vois une des manifestations de l'Esprit-Saint qui fait qu'il sensibilise quantité d'acteurs à des niveaux différents sur une même réalité et qu'il y a une espèce de convergence et d'être témoin de cette convergence. Et c'est l'impression que j'ai eue en vivant ce rassemblement Terre d'Espérance, m'a réjoui le cœur. Donc à la fois, vous me demandez ce que ça a suscité à moi, d'être impressionné par ce que je découvrais, et deuxièmement, l'alimentation vraiment d'une espérance pour l'avenir, parce que je constate que l'esprit est à l'œuvre et que des gens sont là pour recevoir ces inspirations.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle manière pour les chrétiens d'habiter le monde et d'habiter le monde rural, d'être engagé comme ça au service de la terre, mais avec tout ce qu'ils sont, y compris avec leur foi, c'est une manière à eux d'annoncer l'évangile, d'être en mission sur ces terres où il n'y a d'ailleurs pas forcément un curé et une vie de paroisse active. Parfois, les personnes peuvent être assez reculées de la paroisse, mais néanmoins vivre aux côtés de chrétiens qui sont de vrais témoins.
Alors, j'entends plusieurs choses dans votre question, mais j'ai envie de répondre ceci. Répondre à la première question, une nouvelle manière de vivre le rapport à la création. J'ai envie de dire, pour notre génération, à nous, oui, sans doute, parce qu'on a perdu le contact et perdu la mémoire. Mais je pense que les générations qui nous ont précédés avaient cette espèce de connivence, de connaturalité avec la création, intuitive, et parfois délibéré au nom de la foi, mais que ça existait, mais que l'ère moderne, industrielle et post-industrielle a rompu la communication et qu'elle est en train de se rétablir. Et c'est ça qui, chez moi, est source d'espérance. Et que les chrétiens identifient le pourquoi du comment de cette reconnexion à laquelle tout le monde aspire, croyant ou pas croyant, me paraît être un lieu d'annonce de l'Évangile et de la bonne nouvelle, précisément, qu'est l'Évangile. Très heureux, il ne faut pas qu'on ne le repère pas. Voilà.
Merci beaucoup, Mgr Mika, pour toutes ces réponses et pour votre éclairage sur ce regard sur la création et notre manière chrétienne d'habiter la création et de vivre notre foi partout où nous vivons, y compris en milieu rural. On indique au terme de cet entretien que vous continuez votre périple dans le diocèse, puisque depuis le début du mois de septembre, eh bien, vous parcourez le diocèse pour installer les nouveaux curés là où où vous les avez nommés. Hein. Vous étiez le week-end dernier dans le doyenné de Lannemezan, dans le vaste doyenné de Lannemezan. Et ce samedi 1er octobre, vous serez à Pierrefitte. Ce dimanche 2 octobre, pardon, vous serez à Pierrefitte pour l'installation du père Abdel Bemandji. Vous l'installerez comme curé de l'ensemble paroissial Pierrefitte, Davantaigue et Cauterets.
Pour occasion de découvrir une nouvelle vallée de mon diocèse, sans oublier dimanche l'installation, dimanche dernier. Lannemezan, c'était samedi, et dimanche, c'était Lourdes, le père Pierre Jamais.
Voilà, comme administrateur.
Et voilà, et donc, voilà. C'est de dimanche en dimanche, en effet, jusqu'à mi-octobre à peu près, je vais installer des nouveaux pasteurs.
Et puis, vous enchaînerez avec le pèlerinage diocésain, et où voilà. Cette fois-ci, ce sont les Bigourdans qui viendront vous rencontrer.
Ce sera avec grand plaisir.
À Lourdes. Merci beaucoup, Monseigneur Mika.
Très bonne semaine, au revoir.